événement dans la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin.
À quelques jours des commémorations du centenaire de la bataille de Verdun, le président de la République, François Hollande, est notre invité exceptionnel. À quoi sert l'histoire en politique? Les commémorations permettent-elles de souder la communauté nationale? Peut-on aujourd'hui se mettre d'accord sur une histoire de France et comment l'articuler avec des récits concurrents? Bref, la politique fait-elle l'histoire? L'histoire nourrit-elle le politique? Le président de la République, François Hollande, le passé, la mémoire à l'épreuve du pouvoir dans la fabrique de l'histoire.
La fabrique de l'histoire, ce mardi 24 mai, sur France Culture à 9h05. À écouter aussi sur franceculture.fr.
Le journal, présenté par Thomas Séchier.
Bonjour à tous. L'Europe retient son souffle, un président d'extrême droite dans les 28, c'est possible. Résultat ce soir, c'est en Autriche. Norbert Hofer, 45 ans, est le favori du second tour après avoir largement remporté le premier. La clé du scrutin sera la participation, nous dira Ludovic Piétenu, l'envoyé spécial de France Culture à Vienne. L'information de la nuit, c'est la mort probable, ce sont les termes des Américains, du Mollah Mansour, le chef des talibans en Afghanistan. Il aurait été tué dans une frappe de drone au volant d'une voiture à la frontière avec le Pakistan. Dans ce journal également, Manuel Valls, qui va devoir jouer serré. Le Premier ministre est en Israël pour rallier l'État hébreu à l'initiative française de relancer le processus de paix avec la Palestine. Décryptage de Julie-Marie Lecomte. Et puis nous irons à Mayotte. Pour la population locale, les responsables de la crise sur l'île sont tout trouvés, les étrangers comoriens. Ils ont raconté ce qu'ils vivent à David Ravier. Un président d'extrême droite dans un pays de l'Union européenne, ce pourrait être une réalité à la fin de la journée. Plus de 6 millions d'Autrichiens sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils ont le choix entre un candidat écologiste, Alexander Van der Bellen, et le représentant du FPE, le parti de la liberté, islamophobe et eurosceptique, Norbert Hofer. Et c'est bien ce dernier qui apparaît comme le favori compte tenu de son avance acquise lors du premier tour, 14 points de plus que son poursuivant. Ludovic Piétenu, vous nous faites vivre ce scrutin depuis Vienne, la capitale autrichienne. Les bureaux de vote ont ouvert il y a maintenant 2 heures et pour inverser la tendance, les Autrichiens devront aller voter en nombre.
Il y a un mois, pour le premier tour, 6 électeurs sur 10 s'étaient déplacés. 60% des 6 400 000 électeurs convoqués. On devrait les revoir sans doute en grande partie aujourd'hui dans les bureaux de vote, ouverts jusqu'à 17h, en cette belle journée ensoleillée et chaude. Mais que vont faire les 40% restants? Selon tous les analystes, la mobilisation de ces abstentionnistes décidera de la victoire. Aujourd'hui, à défaut de sondage qu'il n'y a presque pas eu dans le pays depuis le premier tour, il y a 4 semaines, c'est le taux de participation qui sera le principal indicateur à observer. Norbert Hofer, le candidat d'extrême droite qui a 45 ans, met en avant sa jeunesse sur tout le reste du personnel politique autrichien, 30 ans de moins que son adversaire, l'a prouvé au premier tour, il fait venir des gens qui ne votaient plus. A-t-il atteint un plafond avec ce score record pour son parti de 36%? Pour susciter de l'adhésion supplémentaire, il joue la carte dans ce second tour du seul contre tous. Les autres partis, notamment les sociodémocrates et les conservateurs, tous éliminés, dans l'espoir de sauvegarder ne serait-ce qu'un semblant de vie politique et éviter une crise de régime, soutiennent tous Alexander Van der Bellen, écologiste, professeur d'université, tenant d'une ligne centriste et libérale. Mais face à un tel rejet de la classe politique, ses soutiens pourraient aussi se révéler encombrants.
Merci Ludovic Piétenu, envoyé spécial de France Culture à Vienne, en Autriche. Fermeture des bureaux de vote à 17h. Les premières estimations suivront dans la foulée. Jour de vote également à Chypre, sur la partie sud de l'île. Les Chypriotes grecs élisent leur parlement, un test pour le président et sa politique de main tendue vers la République turque de Chypre du Nord. En Turquie, justement, l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir, va désigner officiellement dans la journée son nouveau chef. Le ministre des Transports Binali Yildirim, seul candidat et fidèle du président Recep Tayyip Erdogan. Il deviendra également le premier ministre. Il a succédé au Mollah Omar à la tête des talibans en Afghanistan. Le Mollah Mansour aurait été tué ces dernières heures. Sa mort est probable, selon plusieurs responsables américains qui ont annoncé avoir mené des frappes contre le chef de la rébellion. À Washington, la correspondance de Frédéric Carbone.
Pour les Américains, le Mollah Mansour est bien la cible numéro 1 en Afghanistan. Il dirige de fait les talibans depuis 2013 et la mort du Mollah Omar, qui n'a été officialisée que des années plus tard. Il est responsable, selon les États-Unis, de nombreuses attaques meurtrières dans la région de Kaboul et il a également supervisé la bataille de Kunduz, la principale victoire militaire des talibans ces derniers mois. La frappe qui le visait a eu lieu dans cette zone frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, où se sont installés les chefs talibans après le 11 septembre. Des drones de combat ont visé le véhicule du Mollah Mansour. Il y avait un autre combattant à bord. Le Pentagone pense que les deux personnes ont été tuées. Dans ce genre d'opération, L'ordre est directement donné par Barack Obama. Le président américain revendique l'efficacité de cette guerre des drones. Les frappes en Afghanistan sont régulières, mais le New York Times explique que depuis l'assaut contre Oussama Ben Laden en 2011, il s'agit là d'une des rares incursions américaines en territoire pakistanais.
Quant au chef des forces américaines au Moyen-Orient, le général Joe Votel, il s'est rendu en Syrie hier, visite surprise à la rencontre des forces spéciales pour préparer l'offensive sur Raqqa, le bastion de l'État islamique dans le nord-est du pays. C'est une visite diplomatique à haut risque. Manuel Valls est au Proche-Orient pour 3 jours, en Israël aujourd'hui et demain, puis dans les territoires palestiniens. Il sera question d'économie, d'affaires, de culture, mais l'objectif principal, c'est bien de relancer le processus de paix dans la région, un processus au point mort depuis 2 ans. La France a décidé d'organiser une conférence internationale le 3 juin à Paris. Le problème, c'est que cette initiative est mal perçue par l'État hébreu. Le Premier ministre français, qui bénéficie d'une image d'ami des Juifs, va devoir jouer sa partition pour tenter de faire aboutir cette initiative, Julie-Marie Lecomte.
La France n'est pas impartiale, s'est emporté Benjamin Netanyahou après son entrevue avec Jean-Marc Ayrault venu en éclaireur la semaine dernière. Manuel Valls a jusqu'à mardi pour prouver le contraire. Avant de regretter des formulations maladroites, Paris a semé le trouble en signant mi-avril une résolution de l'UNESCO sur le patrimoine palestinien qu'Israël a reçu comme une insulte. C'est donc en ami que le Premier ministre vient déminer le terrain. Manuel Valls le revendique dans une interview à la presse israélienne. Jamais la France n'a eu de Premier ministre aussi engagé dans la lutte contre l'antisémitisme, dit celui qui s'est impliqué contre l'humoriste Dieudonné qui a soutenu la communauté juive, notamment après les attentats de janvier et qui est allé jusqu'à déclarer en mars que, selon lui, antisionisme et antisémitisme sont synonymes. Tout le programme de ces 3 jours tente à démontrer les liens culturels, économiques, historiques entre la France et Israël. Ce soir, le Premier ministre s'exprimera d'ailleurs simultanément sur 2 chaînes de télévision d'information continue, l'une française, l'autre israélienne, pour faire passer le message. Mais l'opération de charme n'est pas sans risque. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne soutient l'intervention française pour un processus de paix. Manuel Valls ira aussi demain à Bethléem et passera la journée de mardi à Ramallah. Le gouvernement français se targue de parler le même langage avec tout le monde. Il s'agira de réussir ce jeu d'équilibriste très observé, y compris par les musulmans en France. Le moindre faux pas peut coûter très cher, à la fois sur la scène internationale et sur le plan politique.
Décryptage signé Julie-Marie Lecomte. En France, les suites de l'enquête après l'incendie d'un véhicule de police mercredi à Paris, avec à son bord 2 agents. La vidéo de l'attaque a été largement relayée sur le net. Présenté à un juge, hier, les 4 suspects, âgés de 18 à 32 ans, issus de la mouvance antifasciste, ont été mis en examen, notamment pour tentative de meurtre et placés en détention. Les 2 policiers, légèrement blessés, ont été décorés. La course contre la montre, toujours en Méditerranée, pour tenter de retrouver l'épave et les boîtes noires de l'Airbus de la compagnie Égyptair. L'appareil s'est crashé en mer dans la nuit de mercredi à jeudi. Des débris ont été repêchés, mais les circonstances de la catastrophe restent mystérieuses. Des messages automatiques émis par l'avion attestent de la présence de fumée en cabine peu avant la perte de signal. C'est insuffisant pour confirmer quoi que ce soit selon les experts du BEA. Direction Mayotte, à présent le 101e département français vit une période trouble. Il connaît de graves difficultés économiques et pour la population locale, les responsables sont tout trouvés les étrangers. Depuis plusieurs mois, les habitants du sud de l'île les expulsent, les persécutent, qu'ils soient comoriens ou français, en situation régulière ou non. Les étrangers représentent 40% de la population du département et les Mahorais les accusent de tous les maux, vol, agression, insécurité, chômage, si bien que les Comoriens ne se sentent en sécurité nulle part. David Ravier.
Pour les Mahorais, les Comoriens sont installés illégalement sur des terrains qui appartiennent à des particuliers. Seul problème, il existe peu de titres de propriété à Mayotte pour prouver à qui appartient chaque parcelle. Les expéditions menées par la population ne servent donc qu'à pousser les étrangers à bout pour qu'ils partent de l'île, ce qui crée un climat de plus en plus préoccupant pour Johan Delhomme, responsable de la vie associative à la CIMAD de Mayotte.
Concerne des étrangers qui sont à 95% sur l'île, les Comoriens, et officiellement ce sont des personnes en situation irrégulière. C'est l'argumentaire qui est amené par les collectifs, alors qu'on s'aperçoit bien que la plupart des personnes sont soit mineures, soit en situation régulière, donc ils se retrouvent à la rue, sans solution de relogement, ce qui amène la situation dans laquelle on est.
Une situation que Kamar Alaï connaît bien. Ce Comorien de 24 ans est le président de l'association Solutions Éducatives, qui vient en aide aux habitants expulsés. Récemment, il a lui-même été chassé de chez lui, a perdu son emploi à la mairie et a été menacé de mort parce qu'il a fait partie des premiers à parler des persécutions que vivent les Comoriens. Avec d'autres collectifs, il prend en charge l'hébergement de 700 personnes à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte.
La majorité d'entre eux, on les a regroupés dans la République pour tenter de trouver une solution pour qu'il soit relogé quelque part. Aucune autorité qui intervient, aucun responsable, que ce soit responsable local ou national. C'est comme si on vivait dans la jungle, en quelque sorte. C'est de la comorophobie.
Selon la préfecture de Mayotte, sur les 200 personnes chassées de leur logement la semaine dernière dans le sud de l'île, seule une vingtaine d'entre eux étaient en situation irrégulière.
Explication et interview signée David Ravier. Un mot de météo pour terminer, des nuages et de la pluie sur les deux tiers du pays. Seul l'Est sera épargné avant le retour des éclairs en fin de journée. Attention à la grêle autour du golfe du Lion. Les températures, vous aurez 14 à 27 degrés au meilleur de la journée. Très belle journée sur France Culture.